Oui, le titre que j'ai choisi pour cette intervention, Visage d'archives d'un historien au travail, Georges Duby, est sans doute à la fois trop général et trop sentimental. Mais enfin, disons qu'il. J'avais envie, sous la pression amicale de Philippe Artière et Jean-François Bert, que je remercie très sincèrement de m'avoir invité ce soir, j'avais envie de vous présenter une recherche sur les pratiques d'un historien, et je m'empresse de dire que cette recherche est à la fois en cours, j'en présenterai quelques éléments, et qu'elle est collective, donc je la mène notamment avec Jacques Dallarin, Florian Mazel, Yann Potin, avec l'aide de la Fondation des Treilles, et Philippe, vous avez fait l'amitié de venir à notre dernière réunion de la semaine de juin 2010. Pourquoi Duby ? Parce que son œuvre historique de médiéviste, 1919-1996, est aujourd'hui autant admirée qu'elle est de moins en moins discutée. Et il y a une raison à cela, assez simple et qui est assez banale dans le mouvement de la postérité historiographique, c'est précisément qu'il est devenu un classique de l'histoire du Moyen-Âge, qu'étudier et qu'enseigner surtout l'histoire du Moyen-Âge, c'est pour une bonne part enseigner l'œuvre de Duby, et que dès lors, au cœur de l'historiographie, il s'y est comme fondu, il est devenu proprement indiscernable. Comment et pourquoi d'ailleurs cet historien, qui n'est pas un historien de la société féodale, mais au fond de ses marges, de ses désajustements, de phénomènes qui sont beaucoup plus complexes qu'on ne l'imagine, comment cet historien a pu occuper le cœur de la position historiographique, c'est un événement historiographique qui attend son historien. Et pour l'expliquer d'ailleurs, il faudrait d'abord, puisque ce sera ça mon objet, montrer comment, s'il n'a jamais été à proprement parler un théoricien de l'histoire, il s'est toujours placé aux zones de plus haute confluence épistémologique entre structuralisme et matérialisme, entre histoire des mentalités et généalogie des constructions discursives, entre sociologie critique et histoire de l'événement créateur, sans jamais, je dirais, en empruntant à toutes ces influences qui traversaient alors l'histoire française des sciences humaines, sans jamais se laisser complètement entraîner par l'une d'entre elles. Ce qui faisait d'ailleurs sa plasticité, sa fortune critique, mais aussi, on va le voir d'une certaine manière, la difficulté qu'on peut avoir à le cerner. En tout cas, quelles qu'en aient été les causes intellectuelles, et elles ne sont pas qu'intellectuelles, il faudrait évidemment faire la part de l'histoire de l'édition, c'est-à-dire qu'il se trouve qu'au moment où il réussit à convertir sa fortune, son prestige académique en fortune publique, je rappelle, il est effectivement élu le même jour que Michel Foucault et que Raymond Aron, ce n'était pas une mauvaise matinée que celle du 17 janvier 1970 au Collège de France. Il fait sa leçon inaugurale deux jours après celle de Foucault. Il est élu à l'Académie française en 1987, et entre 70 et 87, il y a d'ailleurs une sorte de parenthèse enchantée dans l'histoire de l'édition française, qui fait que c'est précisément les plus capés académiquement des intellectuels qui se trouvent être les plus gros vendeurs. Voilà. Donc l'histoire de Duby, elle est indissociable aussi des conditions sociales de ce qu'il a appelé la capacité de l'historien à trouver des nouvelles audiences. En tout cas, quelqu'un n'ait pu être les causes de cet événement historiographique qui place Duby au cœur, je dirais, de l'historiographie française, ces effets s'en font encore ressentir aujourd'hui, en particulier du fait de l'évolution de son écriture, qui déleste, vous le savez, peu à peu sa prose, des notes de bas de page qu'il arrimait encore à l'humus de l'érudition pour s'échapper vers les ciels éthérés de la création littéraire jusqu'aux dames du XIIe siècle où il n'y a plus une seule note, et ce simple geste de se défaire, de se désarimer au fond de son métier d'historien, en tout cas de ses marques les plus visibles, les marques extérieures de scientificité, je dirais, eh bien, complique un petit peu les choses. Le programme de recherche collective qu'on a initié, précisément, tente de comprendre, j'en dis, même si ce n'est pas notre sujet, disons, la perspective, tente de comprendre une démarche d'historien, un travail d'historien, qui a embrassé dans le même élan, me semble-t-il, l'opération historiographique et l'écriture de l'histoire, c'est-à-dire au fond comprendre comment le travail, disons, je ne veux pas dire de style, parce que c'est plus profond que ça, disons la création littéraire ne détourne pas Georges Duby de son métier d'historien, mais au contraire l'y conforte et l'y établit. Et on s'est donné pour objectif donc une enquête coordonnée et systématique dans les dossiers déposés à l'IMEC de l'abbaye d'Ardennes, en adoptant parfois des méthodes de la génétique textuelle, l'étude des brouillons, sans en partager ni les finalités ni les présupposés théoriques, parce qu'il s'agit moins d'entrer par l'étude des ratures ou des repentirs dans la forge d'un style que d'éclairer les pratiques savantes de production du savoir historique. C'est ce que donc j'appelle l'historien au travail, avec l'idée que ce qui est en jeu, c'est pas seulement, je dirais, de connaître un auteur, mais c'est de comprendre un moment au sein du mouvement historiographique, une méthode rapportée à l'épistémologie des sciences sociales et des procédures dans la diversité des pratiques savantes. Et d'une certaine manière, je vais demander à quelqu'un de m'apporter mon Plutarque aussi, mais si je voulais faire des vies parallèles entre Machiavel et Duby, je dirais que de même que Machiavel ne fait pas œuvre de philosophie, mais en impose à la philosophie, d'une certaine manière, comme disait Althusser, Duby n'a jamais été un théoricien de l'histoire, mais en impose à la théorie de l'histoire du fait même de son écriture. Et que, au fond, c'est dans le mouvement même de son écriture qu'on peut le comprendre ainsi. Et je restreindrai mon propos à un questionnement particulier qui nous concerne plus directement ici, c'est-à-dire les rapports entre le travail historique de Duby et ses lectures théoriques. Je me méfie des théories, écrit-il dans l'Histoire continue, et de fait, s'il est dans ses différents écrits autobiographiques, son essai d'égo-histoire, l'histoire continue, ses différents entretiens, intarissable sur sa méthode, on se souvient tous de cette mise en scène très spectaculaire de l'historien au travail dans l'histoire continue où il parle de ses fiches, on les verra, les fiches, justement, de sa thèse qu'il étale, comme Malraux disait, étaler les photos pour écrire son musée imaginaire et essayer ainsi de voir germer l'idée. Eh bien, s'il est intéressable sur son métier avec toujours ce vocabulaire artisanal, il est toujours évasif sur ses références conceptuelles, et il suffit, par exemple, de comparer l'extraordinaire complexité intellectuelle des trois ordres ou de l'imaginaire du féodalisme avec finalement la proportion si chichement mesurée de ses notes où il ne s'explique jamais sur ses rapports, ne serait-ce que, pour le dire le plus simplement, avec Dumézil. Comment documenter ce rapport qui est si discret dans son œuvre, et peut-on attendre d'une exploration des archives qu'elle révèle justement le cachet de l'œuvre, ou plutôt, je dirais, ses coulisses, si l'on veut bien admettre que Duby s'est toujours mis en scène justement par le récit, est-ce par le fait que sa théorie de l'histoire s'était enfouie dans l'intrigue. Donc, dans un premier temps, je présenterai justement les masques de Duby au sens théâtral. Puis je poserai la question de savoir si les archives permettent de démasquer le visage de l'historien ou si elles constituent au fond, au contraire, un autre masque de papier. Sur le fait que cette génération-là est toujours tenté de masquer sa théorie de l'histoire dans son écriture de l'histoire. Bon, je partirai d'un constat que, faute de temps, j'énoncerai seulement, sans le démontrer pleinement. C'est que je dirais que sa vie durant, Duby a eu l'épistémologie discrète et qu'il a préféré pétrir sa prose d'une philosophie de l'histoire qui demeure implicite, plutôt que de l'exposer au grand jour de la théorie, et plutôt même, non seulement de l'exposer, mais aussi de la risquer au grand jour de la théorie. De même qu'on peut dire que finalement, Proust romancier est infiniment plus riche et complexe que le Proust qui réfléchit sur sa pratique de romancier. On peut dire que le véritable théoricien de l'événement, qu'est Duby, et sur lequel, évidemment, à partir du dimanche de Bouvines, son influence est massive sur non seulement les historiens, mais je crois véritablement les sciences sociales, se trouve moins dans ce qu'il a pu en dire, c'est sa théorisation un peu contournée, parfois même pâteuse, dans les entretiens avec Guillardreau, 1980, que dans la prose même du dimanche de Bouvines, où elle fait littéralement corps avec l'intrigue. Je renvoie sur ce point un article intéressant de Felipe Brandi, qui achève actuellement avec François Hartog une thèse importante sur Duby et les sciences sociales, dans le numéro 44 des cahiers du Centre de recherche historique, qui propose une analyse serrée de la dernière page du livre Le Dimanche de Bouvines et de la manière dont elle a été reçue. Cette dernière page, peu de gens s'en souviennent, très étrangement, Duby achève son livre sur l'évocation un peu crépusculaire, assez lugubre, de la théologie politique de la croisade, du dieu des batailles de Franco en 1971. Et ça se termine comme ça. Ça se termine par une dénonciation assez brutale de cet esprit de croisade qui entrerait à nouveau l'Europe. Je crois que personne ne se souvient que les derniers mots du dimanche de Bouvines sont ceux-là, je les cite. Dieu. Point. Celui des holocaustes et des défilés militaires. Le dieu de l'ordre rétabli. Ce grand cheval blême qui planait sur le champ des morts, un soir, à Brunette, avait autrefois plané sur Bouvines. Il plane aussi sur Guernica, sur Auschwitz, sur Hiroshima, sur Hanoï et sur tous les hôpitaux après toutes les émeutes. Ce Dieu-là non plus n'est pas prêt de mourir. Il reconnaît toujours les siens. Et débrouillez-vous avec ça. Sur le plan des régimes d'historicité, ce passage est extraordinairement complexe. Sa complexité, d'ailleurs, se dit, ou plutôt se suggère, avec les moyens de l'écriture, avec notamment le jeu sur les temps du récit, qui sont toujours incroyablement intriqués, comme l'a montré Jean Leduc chez Duby. Le cheval blême planait à Brunette, il a autrefois plané sur Bouvines, il plane aujourd'hui sur Guernica. Donc il y a une sorte d'enchevêtrement des temps de l'histoire dans lequel se dit justement sa philosophie de l'événement et de sa brusquerie efficace. Il y a là un engagement dans la philosophie de l'histoire et un engagement tout court. Ça c'est les derniers mots. Les premiers mots c'est « en 1968, on m'a demandé… » Donc il y a évidemment quelque chose à penser sur ce que Duby laisse à suggérer, et on parlera de Castoriadis peut-être plus tard, sur la puissance de l'insurrection discursive, au fond. C'est un masque, j'avoue, que cette manière qu'il a justement d'enfouir sa philosophie dans sa prose, c'est un procédé littéraire assez admirable qui témoigne pour moi d'un fait essentiel, c'est que l'histoire est un art tout entier d'exécution. Elle n'a pas de théorie, elle n'a qu'une méthode et qu'il n'y a rien d'autre à dire que qu'en faire. Voilà, c'est un art d'exécution. Je crains pourtant que ce procédé soit devenu aujourd'hui trop délicat pour l'époque que nous vivons. En tout cas, c'est le premier masque de Duby au sens théâtral, son écriture elle-même. Alors qu'est-ce qu'il cache ? Évidemment, une fréquentation assidue des sciences sociales, plus assidu qu'il ne le dit et qu'un travail classique d'épistémologie permet d'identifier. Je prends le cas très simple, le marxisme. Là, Duby n'a jamais cherché à minimiser sa dette à l'égard la pensée marxiste, rappelant volontiers donc, combien la lecture d'Althusser, d'Étienne Balibar fut essentielle à sa formation, mais justement dans ses dialogues avec Guy Lardreau, où il se prête de bonne grâce à une forme de gauchissement théorique de sa philosophie, il force un peu la voix. Il en rajoute un peu, il pose un petit peu avec une véhémence qui n'est pas tout à fait dans sa manière, mais qui montre qu'il a un rapport apaisé avec le marxisme qui tient à son histoire personnelle. Je le cite, « Pour moi, le marxisme n'a été ni le soutien d'un enthousiasme politique ni un dogme intangible. C'est parmi d'autres un outil d'analyse et d'une très exceptionnelle efficacité heuristique. Donc dès lors, il ne va pas, n'éprouvera jamais le besoin de s'en excuser violemment sur le dos des autres, ce qui était le cas ordinaire de tous les historiens de sa génération. Je crois profondément qu'à la toute fin de sa vie, s'il défend ardemment une question complexe autour de la mutation de l'an 1000, une question de temporalité historique, c'est parce qu'il y voit, enfin, il voit son modèle, le modèle de la mutation de l'an 1000, attaqué par des gens qui fondamentalement en ont après l'idée même de cohérence d'un système social. Dans Marx, écrit-il, et c'est ce qui lui permet ce détachement, tout ce qui ne touche pas proprement au mode de production capitaliste demeure très en filigrane, en pointillé, une simple esquisse, ce qui laisse aux médiévistes cette large aisance dont j'ai parlé. Et c'est quand Duby peut faire montre de cette large aisance qu'il est le plus à l'aise. Je ferai juste une incise, c'est que les médiévistes ont exactement le même rapport avec Foucault, qui est lui aussi d'une certaine manière, qui est dans la scène inaugurale dont Jean-Claude Zancarini nous a parlé, c'est-à-dire Machiavel qui lit Tite-Live. Foucault, comme tout philosophe ulmien de sa génération, est intimement persuadé qu'entre Tite-Live et Machiavel, il ne s'est rien passé. Il n'y a rien à penser. Bon. Plus tard, Pierre Hadot va lui dire, va voir quand même du côté de la patristique, etc. Mais fondamentalement, même si aujourd'hui on prétend le contraire, et bon, je l'écoute avec intérêt, mais fondamentalement, je veux dire, Foucault n'a rien écrit sur le Moyen-Âge. Rien écrit de... ou alors quelques bribes qu'on peut pieusement recueillir. Mais l'essentiel, c'est quand même de dire que les médiévistes sont beaucoup plus à l'aise avec Foucault que ne le sont les modernistes, parce qu'il n'y a pas de conflit de compétences empiriques, parce qu'il n'a pas planté sa prose dans ce temps-là. Et donc, cette aisance, cette souplesse conceptuelle, c'était celle que Duby a toujours cherché vis-à-vis la théorie, notamment vis-à-vis de l'histoire des mentalités de l'école des annales, avec laquelle il a eu un rapport intéressé mais distant. En 1958, il fait paraître dans les annales un court article dont le titre claque comme un slogan, « La féodalité, une mentalité médiévale », qui est là encore un article un peu exagéré, hein, c'est-à-dire qui, outre une tendance générale, exactement comme au même moment, chacun en rajoute une couche, c'est-à-dire le roi Ladurie de l'histoire lente fait l'histoire immobile, François Furet de l'histoire quantitative dit l'historien sera programmeur ou ne sera pas, enfin chacun monte d'un cran, hein, dans une sorte de surenchère théorique qui est aussi une compétition sociale. En 1958, c'est l'année où, effectivement, Mandrou et Duby écrivent l'histoire de la civilisation française. Et en 1958, Charles Samaron, le principal adversaire de l'école des annales, le héros du positivisme, demande à Duby d'écrire l'histoire des mentalités, qui est sa seule contribution pleinement théorique, dans l'encyclopédie La Pléiade, qui est une sorte de machine de guerre contre la nouvelle histoire, qui paraît alors, et c'est vachement malin de la part de Samaron, parce qu'il choisit justement un franc-tireur, un jeune, quelqu'un qui a un fort potentiel, comme on dit aujourd'hui dans les années NR dont tu parlais, un fort potentiel, mais qui est déjà à côté, qui n'est pas pleinement dans le mainstream de l'école des annales. Et d'ailleurs, dans cet article, assez, où il n'est pas au mieux de sa forme, où il fait référence à une psychologie sociale un peu vague, qui témoigne du refus obstiné que cette génération a adressé à la psychanalyse, bon, eh bien, Duby ne contribue pas vraiment à lever les ambiguïtés de cette notion un peu vague de mentalité. Donc, on le voit, je crois qu'il y a deux masques dans ce théâtre d'ombre. Le premier, c'est la discrétion théorique qui est étouffée par le travail du style. Et le second, c'est la véhémence toujours un peu forcée de quelques prises de position, mais qui sont dosées et calculées, me semble-t-il, notamment dans les dialogues de Guillardreau, où les véritables filiations intellectuelles se trouvent toujours discrètement affirmées. Le rapport entre Duby et Bourdieu, par exemple, me semble essentiel. Il n'en dit pratiquement jamais. Enfin, il n'en dit rien. Si, il y a une archive qui est très intéressante. C'est dans les archives de l'IMEC, j'y viens, une retranscription de l'émission de France Culture, Les Lundis de l'Histoire, du 25 février 1980. La distinction vient de sortir et Roger Chartier invite Bourdieu et le discutant, c'est Duby. Donc là, on voit Duby qui vient de lire le livre. Il a participé aussi avant au numéro de l'Arc sur Bourdieu et Bourdieu a participé au numéro de l'Arc sur Duby, donc ils se connaissent très bien. Ils se lisent. Et on voit comment Duby comprend immédiatement avec une acuité et une acribie qu'aucun historien a à ce moment-là, l'usage immédiat que les historiens, et surtout les historiens de des périodes anciennes, vont faire de la distinction et notamment de la question de l'habitus. Il dit à ce moment-là au micro de Chartier: si les structures cognitives que les agents sociaux utilisent pour connaître pratiquement le monde social sont, comme vous le dites, des structures sociales incorporées, alors c'est une bonne nouvelle pour nous, les historiens du Moyen-Âge qui ne peuvent, au fond, entendre du bruit social que ce qu'ils appelaient « mes camarades », les clercs du XIIe siècle peuvent dire, eh bien, c'est une bonne nouvelle pour les médiévistes, car ils savent qu'ils disposent alors, je cite toujours Duby, de fragments de discours qui sont plus importants que nous ne pouvions l'imaginer longtemps avant que vous n'interveniez. C'est-à-dire que finalement, dès lors, on a l'idée, et ensuite il va la relier avec son article, alors là pour le coup génial, sur la vulgarisation des modèles culturels, que la théorie de l'habitus lui permet au fond de sauver son métier et de comprendre qu'avec, même s'il travaille sur la plus fine pellicule de la pyramide sociale, eh bien ce qui s'énonce là, c'est aussi d'une certaine manière les idées d'une société. Mais encore une fois, les grands maîtres, Castoriadis, auxquels il avouait sa dette lors du dernier entretien qu'il accorde à Pierre Nora quelques semaines avant sa mort en 1996, Foucault, on y reviendra, ça reste toujours dans l'ombre. Voilà, rapidement, la position. La question, c'est de savoir si on peut démasquer par l'archive et quels sont les visages de papier qu'elle révèle. Voilà, donc, voilà maintenant dans les cartons de l'IMEC, où vous voyez, Duby est flanqué de Louis Marin, et regarde Dumézil, d'ailleurs, qui est de l'autre côté des étagères, et... je remercierai jamais assez Philippe Artière et Yann Potin d'avoir nuitamment, je ne sais pas comment, s'être introduit dans les rayons de l'IMEC et avoir pris plein de photos, alors que moi j'étais obligé d'aller chercher les documents un par un à chaque fois en me donnant ma carte d'identité et mes trois derniers bulletins de salaire. Bon, Georges Duby aujourd'hui ne parle plus, mais demeure ce tombeau de papier. Je cite Carlo Sola à propos du fonds Barthes. À ce moment-là, et c'est aujourd'hui, le silence seul de l'archive n'est plus dépôt, mais voix à écouter, non plus passé, mais présent, non plus reste, mais legs. Et ce legs, c'est d'ailleurs très concrètement le dépôt de sa veuve, André Duby, en 2003, de papiers, de correspondances, de manuscrits qui forment aujourd'hui le fonds Duby. Mais cette dénomination, on va le voir, factice en réalité, donne au fond une illusion archivistique qui relaie l'illusion biographique et qui est l'un des 300 et quelques fonds d'écrivains, d'éditeurs, de savants conservés à l'abbaye d'Arlène. Ce fonds représente à ce jour plus de 150 boîtes d'archives. Son inventaire analytique, on va tenter de le faire. Justement, en y travaillant un petit peu, Yann Potin et Philippe Artière ont montré que l'histoire même de la constitution du fonds, avec les interventions de la veuve, de la fille, eh bien, est déjà une forme de mise en scène de la mémoire. Mais je dirais que pour présenter là pour vous faire voir un petit peu des archives, je m'inspirerai de Duby lui-même, qui, dans les fameuses premières pages de sa thèse sur le Mâconnais, présente à la hussarde trois pages. Ça fait rêver quand même. Hein. C'était une époque où, dans les années 50, on faisait une thèse d'histoire, on présentait ses sources en trois pages, et après... on y va, roule ma poule, c'est parti, quoi. Et donc, il y a une sorte de fraîcheur, comme ça, où il dit, l'allure de ma documentation change. Encore tardivement, au 9e siècle, elle semble être engoncée dans des... formulaire carolingien, et ça veut dire sans doute que l'ancienne société résiste encore. Et puis, au XIe siècle, il n'y a plus de chartes, il y a des notices de plaide, il n'y a plus d'ordre carolingien, il y a des conflits, il n'y a plus de normes, il y a des intrigues, et je vais appeler ça la mutation de l'Emile et Hardy. Bon. Évidemment, on pourrait retrouver une sorte de changement d'allure, comme ça, dans la documentation, entre ces premiers cartons, les cartons d'archives, qui sont celles de sa thèse, quatre cartons, 23, 24, 25, 26, où on trouve sagement des plans, très peu de manuscrits, pas le manuscrit de la thèse, mais des plans, des fiches, de la correspondance, classés, je dirais, dans un classement d'usage, donc une archive vivante, et qui est, je dirais, un visage d'archive qui ressemble à tout savant académique au travail. Bon, je les ferai, on rentrera dans le détail. Voilà. Et puis, à partir de son élection au Collège de France, ce qu'il n'y avait pas, les manuscrits dominent, et ce qu'il y avait, les fiches, les prises de notes, les dossiers préparatoires, disparaît. Et on a, alors là, pour le coup, des archives d'écrivains, c'est-à-dire que ce qui est, ça c'est le manuscrit de l'histoire continue, ce qui est conservé, c'est 1, 2, 3, 4, 5, jusqu'à 8 états de la rédaction du texte. Mais tout ce qui est avant a disparu. Évidemment, il y a là deux visages d'archives qui sont très fortement contrastés. Si on va un petit peu dans le détail du premier visage, et là je me réfère à ce que Florian Mazel a étudié en détail sur, je dirais, la genèse de sa thèse. Qu'est-ce qu'il en ressort ? D'abord de la correspondance, qui témoigne des durables hésitations de Duby sur l'ampleur chronologique du sujet exact de sa thèse. Et on voit très bien, là c'est vraiment un beau travail d'archives de généalogie intellectuelle, on peut, dès qu'on met le nez dans les archives, tout de suite, personne ne l'avait fait, c'est quand même marrant, il y a des livres et des livres sur le Mâconnais, mais aller simplement voir les dossiers préparatoires, c'est pas non plus, il y en a 4 caisses, hein, je veux dire, c'est fait en 2 jours, hein. Personne ne l'avait fait. Et on comprend que, évidemment, le récit que Duby fait dans l'histoire continue de l'invention de sa thèse est un récit reconstitué où il donne les noms qui nous parlent encore. Marc Bloch, évidemment, Charles-Edmond Perrin pour les médiévistes, mais l'importance déterminante de Jean Déniaud, le professeur lyonnais de géographie, car il ne faut pas oublier que c'est en géographie que Duby a commencé, ça a disparu. Et c'est ce que la correspondance avec ses maîtres, au moment où il hésite, mais pendant des années, sur le sujet de sa thèse, de sa monographie, révèle. Ce que révèle aussi ces cartons, c'est l'extraordinaire matériel préparatoire, les pratiques savantes, les dossiers de travail, les cartes. Il y a 60 cartes, il n'y en aura que 6 publiées. Les généalogies, sa méthode qui est justement une méthode de géographe où il part du terrain. Et quand il dit dans l'histoire continue, je me baladais en vélo, etc. J'allais, et donc il part des toponymes et ensuite il va chercher les généalogies nobles et il fait un travail énorme d'élaboration de ce matériau avec des tableaux synoptiques, etc. Et ce qui est très intéressant, c'est de voir que lorsqu'on compare, c'est très très bien classé par chapitre, etc., que lorsque l'on compare ce matériel à la rédaction de la thèse, il y en a à peu près 60% qui n'est plus représenté dans la thèse. Donc il y a un travail considérable en amont qui disparaît ensuite dans la rédaction. Et qui d'ailleurs va être remployé dans quelques articles, mais la plupart, et notamment c'est la découverte de Mazel, c'est qu'il a travaillé très tard sur le XIIIe jusqu'au XIVe siècle, et puis après il arrête ça, il coupe les moteurs au milieu du XIIe siècle dans la version rédigée de sa thèse, tout cela disparaît, avec plans extraordinairement détaillés, qui sont des plans, vous voyez, détaillés de manière très scolaire. Mais ce qui est très curieux, c'est que ça, c'est ce qu'on voit. Mais ce qu'on ne voit pas, ce qu'on ne voit pas naître, c'est l'idée. C'est à partir de quand lui vient l'idée, qui n'est dans aucun plan préparatoire, que entre 980 et 1030, tout bouge. Cette idée-là, cette intrigue, on ne peut rien dire d'autre qu'elle, on la voit apparaître dans le texte écrit dont on n'a même pas l'avant-texte manuscrit. C'est quelque chose d'essentiel dans l'écriture de Duby, que Paul Ricoeur avait d'ailleurs remarqué dans Temps et Récit, dans son analyse des trois ordres, je cite, « L'auteur, Duby, dramatise une construction idéologique par la construction d'une quasi-intrigue. » Et cette quasi-intrigue, c'est que pour Duby, écrire l'histoire, c'est toujours décrire le dénouement d'une crise qui fait basculer le monde d'un ordre ancien à un ordre nouveau. Et pour l'instant, on n'a pas d'autre explication ce qui est essentiel quand même, hein, dans la philosophie du temps de Duby, c'est que c'est sa poétique de l'histoire. Et que ensuite, lorsqu'il écrira sur l'histoire des femmes, toujours, il cherche le grand basculement. Et ça, on ne voit pas naître l'idée. Mais comment peut-on voir naître une idée dans une archive? C'est ça, je veux dire, peut-être l'illusion documentaire. Alors, justement, contrastons. Voilà le plan, un des plans de la thèse, et voilà le plan de Guillaume le Maréchal. Le premier est aussi anguleux, charpenté, disait proprement Duby dans l'histoire continue, que le second est arborescent, courbe, et dont le buissonnement constitue la figuration assez saisissante des articulations d'une pensée en mouvement. Il n'y a, à partir de 74-75, que ce type de plan. Et là, par exemple, le plan de Guillaume le Maréchal, c'est 39 feuilles A4 couvertes de cette écriture serrée. Cela ressemble à une sorte de carte heuristique, hein, les cartes mentales, où la pensée se localise, comme dans les arts de la mémoire, et se localise et se vocalise d'emblée. Car lorsqu'on lit, eh bien, on se rend compte que ce qui est posé, c'est le rythme de la voix, d'emblée. C'est-à-dire que ce qu'on a sous les yeux, c'est un conducteur, au sens de, je ne vais pas dire une partition, mais au moins un conducteur, au sens de la performance orale. Et cette voix de Duby, elle sera, bon là j'ai fait toute une analyse du début de Guillaume le Maréchal, vous pouvez voir ça, j'ai dans un article du Moyen-Âge qui s'appelle « La lettre et la voix » qui est paru l'année dernière, bon, on voit comment d'emblée cette voix de Duby est entre les différents états, là vous avez le manuscrit, là vous avez le tapuscrit corrigé, est d'emblée dans sa respiration posée par le conducteur. Donc, la voix de Duby est omniprésente et, d'une certaine manière, c'est aussi ce qui est donné à voir avec à l'IMEC. L'une de mes surprises aura été de remarquer combien l'historien avait pris un soin maniaque de conserver non seulement des enregistrements de ses prestations orales, mais des transcriptions de ces enregistrements. Dès qu'il parle quelque part, en public, ou à la radio, ou à la télé, il demande l'enregistrement, et comme il a les moyens techniques et sociaux, il a une secrétaire, pour dire les choses, au Collège de France, il demande aussitôt la transcription de ce qu'il vient de dire. Voilà. Et donc on a à la fois des caisses d'enregistrement, et des dossiers retranscription. J'avais cru pouvoir interpréter ce souci de la parole vive par un fait de génération intellectuelle, celle de Michel Foucault, celle de Gilles Deleuze, celle de Derrida, de Barthes, tous fascinés au fond par les possibilités techniques de l'enregistrement vocal, comme si finalement le magnétophone à cassette, 1970, le magnétophone à cassette, hein, c'est vieux, hein. Avait, et ses possibilités techniques avaient au fond produit les mêmes effets que l'ordinateur dans la génération suivante. Et d'une certaine manière, cette génération a la poétique de sa pratique. Je cite Roland Barthes de La parole à l'écriture en 1974. Qui pensait la perte du corps constitutive de toute retranscription de paroles enregistrées, nous parlons, on nous enregistre, des secrétaires diligentes écoutent nos propos, les épurent, les transcrivent, les ponctuent, en tirent un premier script que l'on nous soumet pour que nous le nettoyions de nouveau avant de livrer à la publication, au livre, à l'éternité. N'est-ce pas la toilette du mort que nous venons de suivre? Notre parole, nous l'embaumons, telle une momie, pour la faire éternelle, car il faut bien durer un peu plus que sa voix, il faut bien, par la comédie de l'écriture, s'inscrire quelque part.